l'ingénieux Hidalgo Don Quichotte de la Manche.
Feuilleton en 15 épisodes.
D'après le roman de Miguel de Cervantes.
Traduit par Aline Schulman.
Une adaptation de Juliette Eman.
Huitième épisode.
Où l'on parle de la pénitence que le valeureux chevalier de la Manche fit à l'imitation du beau ténébreux dans la Sierra Morena. Sidi Ahmed Ben Engeli raconte qu'après avoir consolé son fidèle écuyer du vol de son âme, notre ingénieux Hidalgo se sentit tout ragaillardi, tant la Sierra Morena où tous deux s'étaient enfoncés lui semblait propice aux aventures qu'il cherchait.
Laisse-moi te dire, Sancho, que tu as l'esprit le plus borné que jamais écuyer eut au monde. Est-il possible que depuis le temps que tu es avec moi, tu n'aies pas encore compris que toutes ces choses qui concernent les chevaliers errants semblent n'être que des chimères, des sottises, des absurdités et aller à rebours de toutes choses? Non qu'il en soit ainsi, mais parce qu'il y a sans cesse autour de nous une troupe d'enchanteurs qui changent et transforment les choses à leur guise selon qu'ils souhaitent nous aider ou nous nuire. Voilà pourquoi ce que tu crois être un plat à barbe me semble à moi être le aume de Membrin, l'enchanteur qui me protège. C'est montré d'une grande prévoyance en faisant en sorte que l'on prenne pour un plat à barbe ce qui est bien réellement le aume de Membrin. Comme c'est un objet d'une valeur inestimable, tout le monde me poursuivrait pour me l'enlever. Mais les gens n'y voyant qu'un vulgaire passin, personne ne s'en soucie. Garde-le, Sancho. Je n'en ai pas besoin pour le moment. Et sache que je désire ici accomplir un exploit qui me vaudra une renommée éternelle sur toute la surface de la terre et fera de moi l'exemple le plus parfait et illustre du chevalier errant.
Et c'est très dangereux, ce genre d'exploit ?
Non, c'est un coup de dé. Et la chance n'est pas toujours favorable. Tout dépendra, Sancho, de ton empressement à me servir.
De mon empressement ?
Oui, car si tu reviens rapidement d'où je pense t'envoyer, ce sera tout aussi rapidement la fin de mes peines et le commencement de ma gloire. Mais je ne vais pas te tenir davantage en haleine. Apprends, Sancho, que l'illustre Amadis de Gaulle fut un des plus parfaits chevaliers errants. Et nous tous, qui combattons sous la bannière de l'amour et de la chevalerie, avons le devoir de l'imiter. L'une des circonstances où Amadis montra le plus de sagesse, de courage, de bravoure, d'endurance, de loyauté et d'amour, ce fut lorsque, dédaigné par sa dame Oriane, il se retira sur la roche pauvre pour y faire pénitence, après avoir changé son nom en celui de Beau Ténébreux. Puisque ces lieux sauvages se prêtent à merveille à mon dessein, il me faut saisir l'occasion qui s'offre à moi.
Est-ce que vous pouvez me dire, monsieur, ce que vous avez l'intention de faire dans un endroit si désert ?
Je viens de t'expliquer que je veux imiter Amadis en faisant le désespéré, l'insensé, le forcené. J'en profiterai pour imiter en même temps le valeureux Roland, lorsqu'il trouva, non loin d'une fontaine, les preuves que la belle Angélique s'était abandonnée dans les bras de Médor. Il en eut tant de chagrin qu'il devint un fou, arrachant les arbres, troublant l'eau des sources, tuant des bergers et mille autres extravagances dignes d'un éternel renom.
Moi, il me semble que ces gens-là avaient de bonnes raisons de faire ces pénitences et ces sottises. Mais vous, monsieur, vous n'avez aucune raison de devenir fou. Quelle dame vous a montré du dédain ?
Tout est là, et c'est justement ce qui donne son prix à cette affaire. Qu'un chevalier errant devienne fou pour une raison bonne ou mauvaise, on n'a pas à lui en savoir gré. Mon mérite est de perdre le jugement sans motif, donnant ainsi à penser à madame que si je fais cela à froid, que ne ferais-je à chaud ? Au reste, cette longue absence qui me tient séparé de Dulcinée du Toboso, à jamais dame de mon cœur, est un motif suffisant. Ainsi donc, Sancho, fou je suis et fou je serai jusqu'à ce que tu reviennes avec la réponse à une lettre que tu vas aller porter de ma part à madame Dulcinée. Si cette réponse est telle que ma constance le mérite, ma folie et ma pénitence prendront fin sur le champ. Dans le cas contraire, je deviendrai fou pour de bon et dans cet état-là, je ne souffrirai plus. Ainsi, quelle que soit sa réponse, je sortirai de la confusion et du tourment où tu m'auras laissé. »
Ils étaient arrivés au pied d'une hauteur qui se dressait comme un pic isolé au-dessus de la rocaille. Un ruisseau limpide coulait sur son flanc, au milieu d'un pré fleuri et verdoyant qui charmait le regard.
« Oh ciel, voici les lieux que je désigne et choisis pour y pleurer le malheur dans lequel tu m'as toi-même précipité. Oh vous, dieux agrestes, qui faites votre séjour de ces lieux inhabitables, qui que vous soyez, écoutez les plaintes d'un amant malheureux, qu'une longue absence et une jalousie imaginaire ont conduit dans ces parages écartés pour y gémir et se lamenter des rigueurs d'une ingrate, modèle achevé de toute la beauté humaine. Ô ma dulcinée, ô jour de ma nuit, maîtresse de ma destinée, considère l'état où m'a réduit ton absence et daigne récompenser ma fidélité comme elle le mérite. Ô toi, mon écuyer, agréable compagnon de mes jours dans le bonheur et dans l'adversité, garde bien en mémoire tout ce que tu me verras faire ici, afin de le transmettre et de le rapporter à celle qui en est l'unique cause. Reçois, fidèle Rocinante, la liberté de celui qui vient d'y renoncer. Ô coursier, aussi célébré pour tes exploits que maltraité par le sort, et va où bon te semble.
Eh oh, oh, oh. Si vous tenez vraiment monsieur à mon voyage et à votre folie, il faudrait remettre la selle à Rocinante, pour qu'il remplace mon baudet. Ça me ferait gagner du temps à l'aller et au retour. Tandis que si j'y vais à pied, je ne sais pas quand j'arriverai, ni quand je serai revenu. Parce que je dois vous avouer que je ne suis pas très bon marcheur.
Fais comme tu voudras, Sancho. Tu partiras dans 3 jours. D'ici là, écoute tout ce que je te dis et regarde tout ce que je fais pour ma dame, afin que tu puisses le lui raconter.
Mais je trouve que j'en ai déjà vu assez comme ça.
Tu es loin du compte. Il me reste à présent à déchirer mes vêtements, à disperser mes armes à la ronde, à me cogner la tête contre ces rochers et d'autres choses encore qui vont te remplir d'étonnement.
Pour l'amour du ciel, monsieur, prenez soin de vous. Parce que votre tête pourrait cogner si fort contre un rocher que dès le premier coup, vous en auriez fini avec toute cette histoire de pénitence. Si vous tenez absolument à vous frapper la tête, moi, je serais d'avis, parce qu'en fin de compte, tout ça, c'est de la plaisanterie, que vous vous donniez des coups dans l'eau, ou contre quelque chose de mou, comme par exemple du coton. Ce qui ne m'empêchera pas de dire à Madame Dulcinée que votre tête a frappé contre une pointe de rocher plus dure que le diamant.
Je te remercie de ta sollicitude à mon égard, Sancho, mais contrairement à ce que tu penses, ceci est très sérieux, et non pas une plaisanterie. S'il en était autrement, ce serait contrevenir aux règles de la chevalerie qui nous défendent de mentir sous peine d'être exclus.
Alors je vous en prie, monsieur, écrivez seulement votre lettre et envoyez-moi vite là où je dois aller. Je n'ai qu'une envie, c'est de revenir vous tirer de ce purgatoire où je vous laisse.
Purgatoire, as-tu dit, Sancho ? Parle plutôt d'enfer, ou pire encore si cela existe. Je n'ai sur moi que ce modeste carnet. Tu auras soin de faire recopier ma lettre sur du papier, en belle écriture, dans le premier village où il y aura un maître d'école ou, à défaut, un sacristain.
Et pour la signature, qu'est-ce qu'on fait ?
Jamais Amadis ne signa ses lettres.
Comme vous voudrez.
Tu mettras en guise de signature « À vous, jusqu'à la mort, le chevalier à la triste figure. » Peu importe qu'elle soit écrite d'une autre main que la mienne, car, autant qu'il m'en souvienne, Dulcinée ne sait ni lire ni écrire. De plus, elle ne connaît pas mon écriture, car elle n'a jamais reçu de moi la moindre missive. Nos amours sont restés jusqu'à présent platoniques, se limitant à de rares et discrètes œillades. Car, j'ose le jurer, depuis 12 années que je l'aime comme la prunelle de mes yeux, que la terre recouvrira un jour, je ne l'ai pas vue 4 fois. Et peut-être ne s'est-elle jamais aperçue que je la regardais, tant Lorenzo Corchuelo, son père, et sa mère Aldonza Nogales la surveillent de près.
Comment ? Madame Dulcinée du Toboso, c'est Aldonza Lorenzo ?
Elle-même. Et elle mérite d'être souveraine de tout l'univers.
Mais je la connais bien. Et je peux vous assurer qu'elle lance une barre de fer aussi loin que le gaillard le plus robuste du pays. Dieu ! Oh, ça, c'est une fille comme on en fait peu. Bien plantée, forte comme un taureau, capable de donner un coup de main à n'importe quel chevalier, errant ou pas, qu'il aurait pour dame. J'aimerais déjà être en chemin tellement j'ai hâte de la rencontrer. Il faut que je vous avoue la vérité, monsieur. Jusqu'ici, j'étais dans l'ignorance. Moi, je croyais ce que vous disiez. Que Madame Dulcinée était une princesse dont vous étiez amoureux. Ou au moins une dame assez importante pour mériter tous ces riches présents que vous lui avez envoyés. Comme le Biscayen et les Galériens. Mais tout bien considéré, qu'est-ce qu'elle en a à faire, Madame Aldonza Lorenzo? Je veux dire, Madame Dulcinée du Toboso, de ces gens que vous avez vaincus ou que vous allez vaincre et qui viennent se jeter à ses pieds. Imaginez qu'au moment où l'un d'eux se présente, elles sont en train de peigner le chanvre ou de battre le blé. Et que votre envoyé le prenne mal. Et qu'elle le prenne encore plus mal. Et qu'elle se moque de votre cadeau.
Sancho, je t'ai déjà dit plus d'une fois que tu parles trop. Et que, malgré ton esprit grossier, tu te crois plus malin que les autres. Peu importe que la bonne Aldonza Lorenzo soit ou non de haute naissance. Sache que je la tiens, quant à moi, pour la plus noble princesse du monde. Il me suffit de le décider et de le croire. J'imagine que ce que je dis est, comme je le dis, ni plus ni moins. Et je la vois en esprit, telle que la veut mon désir, si belle, si noble, que ni les Hélènes, ni les Lucrèces, ni aucune héroïne du temps passé, grecque, latine ou barbare, ne peuvent lui être comparées.
Monsieur, je reconnais que vous avez raison en tout. Donnez-moi la lettre et adieu, je file.
Don Quichotte prit son carnet, se retira à l'écart et, sans se presser, écrivit sa lettre.
À présent, écoute donc, Sancho. Lettre de Don Quichotte à Dulcinée du Toboso. Ô tes souveraines dames, celui que ton absence blesse au plus profond, celui dont le cœur est déchiré jusqu'au tréfonds, te souhaite, ô douce Dulcinée du Toboso, la bonne santé qu'il n'a plus. Si ta beauté à mes yeux se refuse, si ta noblesse ses faveurs m'interdit, si tes rigueurs à mes plaintes répondent, bien que je sois patient outre mesure, je ne saurais supporter cette douleur extrême que depuis trop longtemps j'endure. Mon fidèle écuyer Sancho te fera un récit complet, ô belle ingrate, ô ennemi adoré, de l'état où par ta faute je me trouve. S'il te plaît de me secourir, je suis à toi. Sinon, fais-en selon ton caprice. Car en mettant un terme à mes jours, j'aurai au moins satisfait à ta cruauté et à mon désir. À toi, jusqu'à la mort, le chevalier à la triste figure.
Par la vie de mon père, je n'ai jamais rien entendu de plus beau. Crénom de nom, comme vous avez bien tourné tout ce que vous vouliez lui dire. Et comme c'est joliment signé, le chevalier à la triste figure. Vous êtes le diable en personne, monsieur. Il n'y a rien que vous ne sachiez faire.
Dans mon métier, il faut savoir un peu de tout.
Alors, pendant que vous y êtes, écrivez de l'autre côté la lettre comme quoi vous me donnez les trois anneaux. Et signez clairement pour qu'on vous reconnaisse au premier coup d'œil.
Volontiers. Au vu de la présente. Veuillez, ma chère nièce, payer à Sancho Panza, mon écuyer, trois anons des cinq que j'ai chez moi et dont je vous ai confié la garde. Fait dans les profondeurs de la Sierra Morena le 22 août de l'année en cours.
Parfait. Et maintenant, permettez que j'aille sceller Rocinante et préparez-vous à me donner votre bénédiction parce que j'ai l'intention de partir tout de suite sans voir ces folies que vous voulez me montrer. Je dirais que je vous en ai vu faire tant et plus, et votre dame Dulcinée n'en demandera pas davantage.
Je veux au moins, Sancho, que tu me laisses le temps de me dévêtir et de me livrer à 10 ou 20 folies qui ne me prendront pas plus d'une demi-heure.
Pour l'amour du ciel, monsieur, ne me demandez pas de vous voir tout nu. J'en aurai tellement de peine que je ne pourrai plus m'arrêter de pleurer. Que madame Dulcinée se prépare, parce que au cas où elle ne répondrait pas comme elle le devrait, je fais le vœu solennel à qui de droit de la lui tirer du ventre. La bonne réponse, à coups de pied et à coups de poing. A-t-on jamais vu un chevalier errant aussi fameux que vous l'êtes devenir fou, sans rime ni raison pour les beaux yeux du... Pardieu, si je lui dis tout ce que j'ai sur le cœur à cette dame-là, tout va y passer, tant pis pour la casse. Mais dites-moi, monsieur, qu'allez-vous manger jusqu'à mon retour?
Ne t'inquiète pas pour moi. Même si j'avais des vivres, je ne mangerais rien d'autre que les herbes de cette prairie et les fruits de ces arbres.
Eh bien, adieu, monsieur. Mais vous savez ce que je crains? De ne pas retrouver le chemin qui me ramènera vers cet endroit perdu où je vous laisse.
Tâche d'avoir quelques repères. Pour ma part, Je tâcherai de ne pas m'éloigner, et j'aurai même soin de monter sur les rochers les plus hauts afin de guetter ton retour. Le plus sûr, cependant, pour que tu n'ailles pas te tromper et t'égarer, c'est de couper des branches de ces genêts qui abondent autour de nous, et de les semer de loin en loin jusqu'à ce que tu arrives dans la plaine. Ils te guideront pour revenir vers moi, comme Thésée se servit du fil d'Ariane pour sortir du labyrinthe.
Bien, monsieur.
Après avoir coupé quelques genêts, Sancho demanda la bénédiction à son maître. Et ils se séparèrent, non sans avoir versé l'un et l'autre beaucoup de larmes. Sancho monta sur Rocinante, et il commença à cheminer vers la plaine, semant les branches de genêts comme son maître le lui avait recommandé. Mais il n'avait pas fait 100 pas qu'il revint vers Don Quichotte.
C'est vous qui avez raison, monsieur. Pour que je puisse jurer sans charger ma conscience que je vous ai vu faire des folies, il faut que j'en voie au moins une. Quoique ce soit déjà une assez grosse que de vous voir rester ici.
Je te l'avais bien dit. Attends, Sancho. En moins d'un credo, je les aurais faites.
Don Quichotte enleva aussitôt ses chausses et resta en chemise. Puis sans crier gare, il fit 2 sauts en l'air, puis 2 culbutes, la tête en bas, les pieds vers le ciel, ce qui découvrit des choses telles que, pour ne plus les voir, Sancho tourna bride, jugeant qu'il pouvait désormais en toute impunité jurer que son maître était fou. Dès qu'il atteignit la grande route, il se mit en quête du Toboso et arriva le lendemain en vue de l'auberge où on l'avait berné. Il s'en approchait prudemment quand il vit 2 hommes en sortir.
« Dites-moi, monsieur le curé, cet homme à cheval, ce ne serait pas par hasard Sancho Panza, celui dont la gouvernante de notre chevalier errant dit qu'il a suivi son maître en qualité d'écuyer. »«
En effet, maître Nicolas. Et ce cheval-là est bien celui de notre Don Quichotte.
Wow. » Il l'avait facilement reconnu, car ces 2 hommes n'étaient autres que le curé et le barbier de son village.
Sancho Panza, où est ton maître?
Il est quelque part, occupé à quelque chose de très important. Et je ne peux rien dire de plus d'utile m'en coûter les 2 yeux.
Attention, Sancho Panza. Si tu ne nous dis pas où il se trouve, nous croirons, comme nous le soupçonnons déjà, que tu l'as tué et volé. Car c'est bien son cheval que tu montes là. Tu vas nous apprendre tout de suite où est le maître de cette pauvre bête. Ou alors, gare à toi.
Laissez vos menaces pour d'autres. Je ne suis pas homme à tuer ni à voler personne. Mon maître est en train de faire pénitence tout à son aise dans ces montagnes. Je vais de sa part porter une lettre à Madame Dulcinée du Toboso, la fille de Lorenzo Corchuelo, dont mon maître est amoureux jusqu'à l'os.
Quoi ?
Les 2 compères n'en revenaient pas. Ils avaient beau connaître l'étrange folie dont souffrait Don Quichotte, ils étaient toujours aussi surpris chaque fois qu'on leur en donnait des nouvelles.
Montre-nous donc cette lettre.
Sancho plongea aussitôt la main sous sa chemise, mais il ne trouva pas le carnet. Il n'aurait jamais pu le trouver. L'eût-il cherché jusqu'à aujourd'hui, pour la bonne raison qu'il était resté entre les mains de Don Quichotte et qu'il n'avait pas pensé à le lui réclamer.
Bah, qu'as-tu donc, Sancho? Te voilà devenu tout pâle.
Ce que j'ai, tout simplement que je viens de perdre en l'espace d'un instant 3 anneaux dont chacun valait bien un château.
Comment cela?
J'ai perdu le carnet de poche où mon maître avait écrit la lettre pour Dulcinée. Et aussi un engagement signé dans lequel il dit que sa nièce doit me donner 3 anneaux sur les 4 ou 5 qu'il a chez lui pour remplacer mon âne qu'on m'a volé.
Ne t'inquiète pas. Dès que je retrouverai ton maître, je lui ferai donner confirmation de cet ordre et réinscrire la donation sur papier, comme c'est la coutume.
Dans ce cas, je n'ai plus de soucis à me faire. Parce que la lettre à Dulcinée, je l'ai presque entière dans ma mémoire. D'où je pourrai la ressortir où et quand on voudra.
Et l'anneau, Sancho ? Nous la copierons ensuite.
Pardieu, monsieur le curé, que le diable m'emporte si je me souviens de cette lettre. Tout ce que je sais, c'est qu'elle commençait par « Ô tes souterraines dames ».
Il ne pouvait pas y avoir souterraine. Mais plutôt surhumaine ou souveraine.
Oui, c'est ça. Et ensuite, si je ne me trompe, ça continuait par... Eh oui, il y avait du plus profond tréfonds, le déchiré vous baise les mains, ingrate et très méconnaissable beauté. Il y avait encore quelque chose à propos de santé et de maladie qu'il lui envoyait, et ça continuait comme ça jusqu'au bout pour finir sur un vôtre jusqu'à la mort.
le chevalier à la triste figure.
Félicitations, Sancho. Ta mémoire est excellente.
Savez-vous que si je ramène à mon maître une réponse favorable de Madame Dulcinée du Toboso, il se mettra aussitôt en quête d'aventure pour devenir empereur. Et une fois l'affaire réglée, il me mariera, parce qu'à ce moment-là, je serai bien sûr veuf. Et il me donnera pour femme une suivante de l'impératrice, héritière d'un grand et riche état en terre ferme, parce que je ne veux plus entendre parler d'archipel ni d'archi rien du tout.
La folie de Don Quichotte doit être contagieuse pour avoir ainsi détraqué le cerveau de ce pauvre homme.
La chose est sûre. Mais mieux vaut le laisser tranquille tant que sa conscience n'est pas en danger. Priez donc Dieu pour la santé de votre maître, Sancho. C'est en effet possible, et même faisable, qu'il devienne, avec le temps, empereur ou quelque chose de ce genre.
Mais pour l'instant, ce qui importe, c'est de trouver le moyen de le délivrer de cette pénitence qu'il s'inflige inutilement.
Oui, et pour y réfléchir tout à notre aise, et aussi pour dîner, car c'est l'heure, nous ferions bien d'entrer dans l'auberge.
Je préfère vous attendre dehors. Je vous expliquerai pourquoi plus tard. Mais si vous pouviez m'apporter quelque chose de chaud à manger, et aussi de l'orge pour Rocinante.
Ils entrèrent donc en le laissant là. Peu après, le barbier lui apporta son dîner. Pendant le repas, les deux amis se concertèrent sur la manière de parvenir à leur fin.
Il m'a vient une idée, maître Nicolas, qui pourrait nous aider à ramener Don Quichotte chez lui. Voilà ce que je vous propose. Je m'habillerai en demoiselle errante, tandis que vous, vous vous changerez en écuyer. Ainsi accoutré, nous irons nous présenter devant notre ami. Je feindrai d'être une jeune fille affligée et sans protection. Mon chevalier errant, imbu de ses devoirs, il ne pourra manquer de me suivre afin de venger une offense que m'aurait infligée un chevalier félon. Je le supplierai, par ailleurs, de me permettre de ne pas lever mon masque et de ne me poser aucune question tant qu'il ne m'aura pas fait justice de cette félonie. Ainsi obtiendrons-nous de Don Quichotte tout ce que nous voudrons. Nous le sortirons de ses montagnes et le ramènerons dans son village. Nous trouverons bien un moyen de le guérir de son étrange folie.
Le barbier trouva l'invention du curé excellente et tous les deux se mirent aussitôt à l'ouvrage.
À suivre, l'ingénieux Hidalgo Don Quichotte de la Manche.
Un feuilleton adapté par Juliette Eman.
D'après le roman de Miguel de Cervantes.
Traduit par Aline Schulman.
Et publié aux éditions du Seuil.
Conseillère littéraire, Catel Guillou.
Huitième épisode.
Avec
Daniel Koenigsberg,
Bernard Menez,
Laurent Ferraro,
Luc-Antoine Diquerot
et Jean-Pierre Becker.
Musique originale,
Sébastien Schuller.
Bruitage, Elodie Fiat.
Prise de son, montage, mixage,
Benjamin Vignal,
Mathieu Leroux.
Assistante à la réalisation, Laure-Hélène Planchet.
Réalisation, Cédric Ossire.